chers auditeurs. Au micro, Paul-Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. On connaît maintenant la composition du Parlement israélien. La nouvelle Knesset est très à droite, plus à droite qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est parmi les leaders de cette droite nationaliste, conservatrice et ultra-religieuse, que le futur chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, va choisir les ministres qui composeront son exécutif. Il y aura donc des politiciens issus du groupe des sionistes religieux, des gens comme Ben Gvir, qui n'a pas été accepté par l'armée israélienne du fait de ses activités anti-arabes violentes et factieuses, ou comme Smotrich, qui propose que la tradition juive, la halakha, remplace les lois séculières de l'État d'Israël. Ces politiciens, hier marginaux, exigent des mandats stratégiques. La sécurité intérieure, la gestion administrative de la Judée et de la Samarie, le ministère de la Défense. Avec les partis ultra-orthodoxes, qui font partie de cette majorité parlementaire, mais s'intéressent peu aux valeurs du sionisme, ils insistent pour prendre en charge des dossiers brûlants. La modification de la loi du retour et la définition de qui est juif, l'orientation des études et le financement du système d'éducation, l'imposition du Shabbat dans tout le pays, la répression de l'homosexualité et d'autres sujets de même acabit. Par ailleurs, beaucoup d'observateurs israéliens estiment que le Likoud ne pourra pas endiguer l'influence des nationaux religieux et des ultra-orthodoxes, car le parti de Netanyahou est de moins en moins libéral et légaliste. Il ne correspond plus au vieux Heroud de Menachem Begin. Cette situation inquiète beaucoup de citoyens israéliens. Non qu'ils redoutent l'alternance politique du pouvoir, c'est le jeu naturel d'un pays libre. Mais parce que certains éléments qui composeront le nouveau gouvernement risquent de s'attaquer aux fondements démocratiques de l'État juif et de ses institutions. D'ailleurs, il n'y a pas que des individus qui s'interrogent. Certaines organisations font aussi entendre leurs craintes. Ainsi de Givat Haviva, grande et ancienne fondation éducative judéo-arabe, dont la direction écrit dans un communiqué « Nous ne cacherons pas que le résultat des élections à la Knesset nous ont tous remplis d'inquiétude pour l'avenir du pays, avec un gouvernement qui s'appuiera sur les éléments racistes. » Je vais demander à Marc-Alain Grumelin, qui est le président des Amis de Givat Haviva en France, de nous commenter ce communiqué alarmiste et de nous expliquer les raisons du malaise des responsables de Givat Haviva. Marc-Alain, bienvenue. Bienvenue sur notre antenne.
Merci aussi.
Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement, mais profondément, nous expliquer ce qu'est Givat Haviva, ce que représente cette institution en Israël et qui dirige cette institution?
Givat Haviva, c'est depuis 73 ans une organisation de la société civile pour un changement sociétal. Et elle est associée de très près à la Fédération des Kibbutz Artsi. Elle s'efforce de créer un modèle de société en Israël en soulignant l'importance d'une société solidaire entre tous les citoyens, citoyens juifs et citoyens arabes. Elle est ancrée dans des principes de respect mutuel, de confiance, de pluralisme, d'égalité entre tous les citoyens. Et elle travaille à promouvoir une meilleure société, on va dire, prospère et démocratique pour tous. Une qui lutte pour la paix avec ses voisins et la solidarité de tous les peuples.
Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement pour ça? Son travail, c'est quoi? C'est social, éducatif, politique? Quelle est son activité?
Elle se concentre sur les domaines de l'éducation, l'enseignement des langues, hébreu pour les arabes, arabe pour les Israéliens juifs, le domaine de la culture et l'art. Et au sein de cette organisation, c'est un véritable partenariat judéo-arabe qui en est le fondement et qui fait l'expertise unique de Givat Raviva, qui est le leader dans ce domaine en Israël.
D'accord. Alors, est-ce que c'est plusieurs centaines de gens? Est-ce que c'est des milliers de gens qui ont été touchés par les actions de Givat Raviva en Israël ou...
Tous les ans, oui. Ce sont des centaines, voire des milliers de jeunes qui ont la possibilité de se rencontrer dans le cadre de programmes qui durent entre un jour pour les élèves d'école primaire jusqu'à 2 ans quand c'est un jumelage entre classes de collège. Et entre les deux, il y a des programmes de durée moyenne, 3 mois, 6 mois. Donc là, c'est vraiment, du point de vue numérique, très important. De même que les cours d'hébreu dans les collèges arabes, Givat Raviva a organisé le détachement d'enseignants dont la langue maternelle est l'hébreu dans ces collèges arabes pour diverses raisons. D'abord pour apprendre l'hébreu pratique, efficace aux jeunes arabes, pour que plus tard ils puissent mieux s'intégrer dans la vie économique du pays. Et également pour que ces jeunes arabes aient devant eux quelqu'un qui est bienveillant. C'est pas toujours l'idée qu'ils ont des Israéliens juifs, parce que souvent, dans leur municipalité, ils n'en voient pas beaucoup.
D'accord. Mais est-ce qu'il y a la même chose du côté juif, c'est-à-dire des juifs qui apprennent l'arabe?
Il y a une autre organisation qui fait la même chose du côté arabe, du côté juif, mais c'est moins important à ma connaissance. Et Givat Raviva a des cours d'arabe, alors là très avancés, avec une méthodologie qui est soit appropriée aux gens de langue maternelle hébreu, soit maintenant de langue maternelle anglaise, pour apprendre très efficacement, alors là, avec un programme lourd de plusieurs mois, mais très opérationnel.
D'accord. Moi, je me souviens très bien avoir vu des élèves des écoles de police israéliennes suivre des cours d'arabe, de civilisation arabe et de langue arabe à Givat Raviva.
Oui, c'est exact, ça se faisait.
Alors, qui dirige cette organisation ?
Depuis, depuis 2021, c'est une jeune femme qui a pris la relève. Elle est passée par Hachomer Hatzair, mais elle n'est pas issue des kibbutz. C'est une urbaine de Tel Aviv qui a un passé plutôt dans la politique, parce qu'elle était assistante parlementaire à un moment. Puis elle a été journaliste et chargée de communication. Et elle a pris ça d'une main absolument experte.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Michal Sela.
Oui, Michal Sela. D'accord, mais je croyais que c'était une co-gestion judéo-arabe, la direction.
Bien sûr, à côté d'elle, il y a Mohamed Daraouché, qui est une personnalité locale.
Oui, il est connu là, dans Oum El Fakhem et dans le coin.
Oui, il vient de Iqsal, qui est une petite ville au pied de Nazareth. Et lui, il est plus particulièrement chargé de tout ce qui est aspect société solidaire et des rapprochements entre les municipalités.
D'accord. Et pour terminer, j'ajouterais qu'il y a un très beau campus dans le centre du pays.
17 hectares, ce qui est vraiment rare dans le pays.
Et Givat Raviva, c'est au nom de Raviva Arai, qui était une parachutiste qui a été envoyée en Tchécoslovaquie, qui a été assassinée par les nazis.
Exactement.
Voilà. Alors, revenons à notre sujet. Le communiqué, il dit... Le renforcement de l'extrême droite peut encourager certains groupes à chercher la régression de l'État et du pays sur le plan de la défense des minorités, du système judiciaire et de la démocratie. Marc-Alain Grumelin, c'est lourd comme accusation, hein, c'est grave. Qui sont ces groupes antidémocratiques et comment pourraient-ils faire du mal aux institutions du pays ?
Je dirais que c'est une réaction à chaud après le résultat des élections. Malheureusement, les gens qui dirigent ces petits partis qui vont être très probablement dans la coalition, ils sont connus et ils sont pas connus en très bien. En particulier, ils sont tout à fait opposés à ce qu'a été la politique de Givat Raviva et ce qu'est toujours sa philosophie.
D'accord. En quoi ils se sont opposés ?
Pour Guy Vatraviva, tous les citoyens sont égaux. Il faut que les gens vivent ensemble sur la même terre. On parle des citoyens israéliens.
Des arabes israéliens, des juifs israéliens.
Oui. Vivent ensemble, se connaissent, travaillent ensemble, s'apprécient. Et lorsqu'on entend, hélas, des déclarations qui minorent le rôle des Arabes et les méprises, ça ne va pas du tout dans notre façon de penser.
D'accord. Alors, dans le même communiqué, il est dit, autre grave accusation, un gouvernement qui s'appuiera sur les éléments racistes. Quand on dit des choses comme ça, il faut, faut le prouver, il faut l'argumenter, parce que accuser quelqu'un d'être raciste, c'est grave. Qui sera raciste dans ce gouvernement et alors qu'on ne sait même pas quelle va être sa composition vraiment. C'est pas encore décidé. On a déjà de bonnes idées, mais...
C'est vrai, Ouzi, donc on espère malgré tout que les actes seront bien en deçà des paroles qu'on a entendues. Mais ce n'est pas la peine de rappeler les noms des personnes en question qui se sont illustrées pendant la campagne électorale et bien avant dans leur histoire par des déclarations où il est clair que ils ne veulent pas considérer les Arabes comme des gens comme les autres.
D'accord. Donc vous avez peur des gens comme Ben-Gvir, Smotrich, les gens de Noam, des choses comme ça, même des gens du Likoud qui ont des propos déplacés vis-à-vis des mythos hérités arabes, vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme eux.
Guy Vatraviva a peur des conséquences que ça pourrait avoir sur les bonnes relations qui ont été établies, même du temps de Netanyahou avant, et bien sûr avec le dernier gouvernement, pour financer des programmes qui sont des programmes de coopération judéo-arabe.
D'accord. Mais alors, à propos de financement, justement, Guy Vatraviva a toujours eu du financement de l'État d'Israël, ce qui est tout à fait normal. Ces financements ont eu lieu du temps où le travailliste était au pouvoir. Depuis longtemps, le Likoud est au pouvoir, Netanyahou est au pouvoir, et vous avez toujours eu des financements. Et je crois même que ces financements, ces dernières années, ont augmenté. Donc, de quoi avez-vous peur? Parce qu'en fait, même si les idées de Guy Vatraviva ne ressemblent pas à ceux du Likoud et de ses alliés politiques, vous avez quand même reçu des financements.
Il y avait un certain nombre
Il n'y a pas eu de répression là-dessus.
Il y avait des choses qui étaient, on va dire, inscrites dans des programmes pluriannuels. Et là, lorsque les signatures ont été déjà réalisées avec les administrations, on n'est pas trop inquiet. Il y avait des choses qui étaient, jusque dans ces derniers temps, en négociation et dont on n'est pas du tout sûr qu'elles aboutissent.
Vous pensez qu'il peut y avoir des restrictions budgétaires ?
Ou des choix qui mettent à l'écart Guy Vatraviva.
D'accord. Il y a quand même une question que je voulais vous poser, c'est Guy Vatraviva promeut la coopération intercommunautaire, le dialogue, la tolérance. Vous nous dites qu'aujourd'hui au gouvernement, et je pense que vous avez raison, il y a des gens qui sont intolérants, qui font de la provocation contre les minorités et qui ne sont pas prêts à accepter tout à fait les jeux du règle démocratique, le respect des institutions. Alors, c'est un peu un échec de Guy Vatraviva aussi, parce que depuis tellement longtemps, vous travaillez sur les aspects positifs et vous vous retrouvez avec un gouvernement élu démocratiquement. Il est élu démocratiquement, c'est légitime, il n'y a pas à dire. Le peuple d'Israël a voté. Mais ce n'est pas vos idées qui sont au pouvoir.
Eh oui, il faut le regretter. Cela dit, hein, comme il est bien connu, ça prend des années à bâtir la confiance et ça prend quelques secondes, quelques minutes à la détruire. Donc, ce qui est arrivé, c'est avant tout, je dirais, l'échec de la gauche israélienne qui a manqué de sens politique et qui est restée dispersée au point qu'un certain nombre de partis sont totalement exclus maintenant et ça a donné de la place aux autres.
Quand vous parlez de la gauche, je voulais dire l'axe anti-Bibi, qui n'est pas tout, il n'y a pas que des gens de gauche dedans. Lapid, Gantz, c'est pas vraiment la gauche israélienne.
Eux, ils sont toujours là. Mais en revanche, les vrais partis de gauche, ils sont pratiquement plus.
D'accord, d'accord. Qu'envisage de faire Guy Vatraviva compte tenu du jugement très négatif que sa direction porte sur le contexte politique israélien? Dans le communiqué, il écrit « Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe du désespoir ». C'est quand même terrible d'écrire ça. « Nous ne pouvons pas nous payer le luxe du désespoir ». Ça veut dire qu'il y a un désespoir. Après tout, c'est les élections. Bon, une fois on gagne, une fois on perd. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Qu'est-ce qu'ils ils vont fermer la porte? Ils vont défiler dans les rues? Ils vont se battre avec les gens qui pensent comme eux? Expliquez-nous.
Le luxe du désespoir, ce serait abandonner tous ces programmes qui ont donné des résultats, en particulier dans la région du Triangle où est implanté Guy Vatraviva, où sept couples de municipalités qui avant se tournaient le dos. Une juive, une arabe, alors qu'elles sont vraiment voisines. Elles ont une frontière commune. Ces sept couples fonctionnent, au début bien impulsés par Guy Vatraviva, et maintenant pratiquement en autonomie.
D'accord.
Donc depuis qu'ils se connaissent, les choses fonctionnent. Il y a des clubs d'affaires, il y a des équipements sportifs communs. On nettoie une rivière pour qu'elle soit propre pour les deux. Donc il y a des choses qui se font à l'échelon local, c'est sûr.
D'accord. Mais alors donc ça veut dire que vous pensez que les institutions démocratiques de l'État juif vont tenir le coup, que malgré les attaques dont qu'elles peuvent subir, il y aura des gens pour les défendre. Il faut rappeler quand même qu'il y a la moitié des gens qui ont voté pour Netanyahou et l'autre moitié qui n'ont pas voté.
Oui, mais il faut voir ce que ça veut vraiment dire. Et est-ce que finalement la position de Guy Vatraviva n'est pas celle qui peut assurer la paix civile dont tout le monde a besoin?
Je ne comprends pas là. La paix civile, comment ça?
Si on lance des provocations, et comme c'est arrivé au début des années 2000, que des routes sont coupées, que la police intervient, qu'il y a des morts, ça, c'est pas une bonne chose.
D'accord, vous lire de la part du gouvernement, si le gouvernement est excessif dans la répression de certains mouvements sociaux arabes.
Ou même lance des provocations.
D'accord, d'accord. Bon, Marc-Alain Grumelin.
Merci.
Marc-Alain Grumelin, je vois que quand même ce communiqué a été lancé à un moment peut-être de spleen, de c'est non, que je sais pas, je le trouve à la fois juste et à la fois excessif.
C'était un communiqué.
Il faut faire confiance à la société civile et aux institutions démocratiques de l'État d'Israël.
C'était un communiqué à chaud, effectivement. J'ai reparlé à Michal depuis, qui a parlé... La directrice générale, qui a parlé aux administrations avec qui elle était en rapport. Pour les administrations, c'est une affaire qui continue à tourner, normalement. Mais est-ce que le spoil system, c'est-à-dire le changement des têtes, ne risque pas de remettre les choses en cause, ça, le temps le dira.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marc-Alain Grumelin, d'avoir participé à notre émission. Espérons que Guy Vatraviva continuera à pouvoir faire son travail dans de bonnes conditions, comme il a réussi à le faire jusqu'à maintenant. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Bonne semaine à tous et à toutes, et à dans 15 jours, c'est Paul Ouzimé, Arsenal Antenne, avec Chronique pour la paix.